de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. Le Royaume-Uni autorise l'utilisation du vaccin Moderna. L'arrivée à Sofia, l'ambassadeur d'Indonésie a rencontré le vice-ministre bulgare des Affaires étrangères. La Grande-Bretagne a invité Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah à se joindre à la lutte contre le changement climatique à travers la religion. Les démocrates envisagent de destituer Donald Trump. La France continue de fermer des restaurants et des stations de ski. Le Conseil national de l'énergie a révélé comment l'Indonésie pourrait être exempte d'importation d'énergie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les autorités sanitaires britanniques ont délivré vendredi un permis d'utilisation de vaccin COVID-19 de Moderna et il a été convenu d'acheter 10 millions de doses supplémentaires liées à l'injection ciblée du vaccin qui débutera au printemps entre mars et mai. Jusqu'à présent, trois vaccins COVID-19 ont été autorisés à être utilisés au Royaume-Uni. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que pour le propre vaccin de Moderna, le Royaume-Uni a actuellement commandé 17 millions de doses au total. Les fournitures de vaccins commenceront à être expédiées au printemps, après que Moderna et augmenter ses capacités de production. L'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, Iwan Bogananta, a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères de Bulgarie, George Georgiev, jeudi, pour lui remettre une copie de lettre de créance peu après l'arrivée de l'ambassadeur dans la capitale Sofia le 20 décembre 2020. L'ambassadeur d'Indonésie doit également soumettre une lettre de créance au président bulgare le 19 janvier 2021. Selon l'ambassade d'Indonésie à Sofia, dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta vendredi. Lors de la rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Iwan a exprimé l'espoir que les deux pays seraient en mesure d'améliorer les relations de partenariat dans tous les domaines, notamment en 2021, qui marquera le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Bulgarie. La Bulgarie, l'un des membres de l'Union européenne qui borde la Turquie et la Grèce, est considérée comme importante pour l'Indonésie parce qu'elle a une position géopolitique stratégique et un accès au marché de l'Union européenne, de l'Asie et des Balkans. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Owen Jenkins, a exprimé l'espoir que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah seraient prêts à participer aux efforts des chefs religieux du monde pour lutter contre le changement climatique. Lors d'une réunion cette semaine, Jenkins et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie, Giovanni Brignone, ont encouragé les deux plus grandes organisations islamiques d'Indonésie à accepter l'invitation du pape François à assister au sommet des chefs religieux. Et Jenkin a déclaré cela dans un communiqué reçu vendredi par l'agent de presse Antara à Jakarta. Les rôles de ces deux organisations auront un impact très significatif si elles expriment sans réserve leur soutien dans la lutte contre le changement climatique. Toutes les grandes religions dans le monde enregistrent l'obligation morale de l'humanité de protéger la création de Dieu. Cette année, la Grande-Bretagne et l'Italie co-organiseront le sommet sur le changement climatique, programme de propriété automobile COP26. Les deux pays affirment que les organisations religieuses dans le monde jouent un rôle important dans les problèmes mondiaux qui nécessitent les efforts de toutes ces sociétés. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vendredi, les démocrates ont envisagé de destituer le président Donald Trump pour la deuxième fois. Cette considération a été effectuée deux jours après qu'une foule de partisans de Donald Trump a pris d'assaut le bâtiment du Congrès américain, le Capitole, après que Trump ait fait une fausse déclaration que l'élection présidentielle, lorsqu'il y participe en novembre 2020, était frauduleuse. Les dirigeants démocrates du Congrès, y compris la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer, ont appelé à ce que le processus de destitution soit mené immédiatement si le vice-président Mike Pence et le cabinet de Trump refusent de prendre des mesures pour retirer Trump du pouvoir. Le premier ministre français Jean Castex a déclaré que les restaurants, les cinémas et les musées resteraient fermés en janvier et que les stations de ski pourraient ne pas ouvrir avant les vacances de janvier lorsque la France intensifiera les injections de vaccins. Un couvre-feu national a été prolongé au moins jusqu'au 20 janvier. Castex a également déclaré lors d'une conférence de presse vendredi qu'il n'a pas encore supprimé la possibilité de resserrer les protocoles au milieu de la forte pression qui pèse encore sur l'hôpital. Un lit de soins intensifs sur deux est occupé par des patients atteints de COVID-19 et les procédures jugées non essentielles sont reportées pour alléger le fardeau. Son parti a déclaré qu'il ne pouvait absolument pas relancer sa vigilance. Il a expliqué que les restaurants doivent rester fermés au moins jusqu'à la fin février. La propagation du coronavirus a tué 66 500 personnes en France, le septième plus grand nombre de morts au monde. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que la France avait soigneusement suivi les cas d'une nouvelle variante de COVID apparue en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Le Conseil national d'énergie, ou DEN, a révélé un moyen pour l'Indonésie de se libérer des importations d'énergie, qu'il s'agisse des importations de pétrole et GPL. Le membre du Conseil national de l'énergie, Daryatmo Mardianto, a déclaré que ces efforts comprenaient la poursuite du besoin de pétrole et GPL et l'encouragement à l'utilisation d'autres sources d'énergie en même temps. Cela a été dit par Daryatmo Mardianto après la cérémonie de l'inauguration et prêté serment à Jakarta vendredi. La principale étape est de maintenir et d'augmenter la réserve de pétrole et de gaz. D'un autre côté, il est important de continuer à encourager d'autres sources d'énergie afin que l'Indonésie ne dépende pas de certaines énergies. Il a admis que l'Indonésie ne peut nier le manque d'approvisionnement et le besoin d'importation d'énergie. Néanmoins, des efforts de réduction des importations doivent être menés, y compris la fermeture de ces importations avec d'autres sources d'énergie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues d'Ambon, les Moluques. Le gouverneur des Moluques, Murad Ismail, a lancé mercredi dernier l'exportation de 15 tonnes de thon frais vers le Japon depuis le terminal de fret de l'aéroport international d'Ambon à Patimura. À cette occasion, le gouverneur Murad a déclaré que les exportations et les investissements sont des clés importantes du progrès économique d'une région. L'économie qui continue de croître a un impact sur la réduction des inégalités et de la pauvreté. Selon lui, l'opportunité d'exportation pour les Moluques est actuellement grand ouverte, notamment pour les produits de la pêche, mais sa mise en œuvre nécessite une synergie dans des conditions mondiales qui sont toujours touchées par la pandémie COVID-19. Il a également demandé aux exportateurs des Moluques de continuer à améliorer leurs performances et d'être plus attentifs aux opportunités et nouvelles innovations. Les nouvelles suivantes sont venues de Pekanbaru, Riau. PT Perkebunan Nusantara Seng et l'Agence de conservation des ressources naturelles de Riau, ou BBKSDA, ont formé une équipe conjointe pour la manipulation de l'élevant de Sumatra. L'équipe conjointe comprenait des employés de l'entreprise, le personnel BBKSDA de Riau et la communauté. Le PDG de PTPN Seng, Jatmiko Kasantosa, dans une déclaration écrite à Pekanbaru mercredi dernier, a déclaré que l'équipe conjointe avait reçu une formation sur l'atténuation de l'éléphant de Sumatra organisée dans l'une des unités de plantation de PTPN Seng, Air Molek, la régence de Indragiri Hulu Riau. À travers cette synergie, on espère que le potentiel de conflit entre les éléphants protégés par la loi numéro 5 de 1990 pourra être évité. Le chef de BBKSDA de Riau, Suharyono, a apprécié les mesures prises par PTPN Seng pour se soucier de la conservation de l'éléphant sauvage de Sumatra, qui est l'une des espèces sauvages endémiques d'Indonésie qui sont déjà menacées la population. Les dernières nouvelles sont venues de Denpasar, Bali. Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a déclaré mardi dernier que la province de Bali avait obtenu le meilleur classement dans la mise en œuvre des protocoles de santé. Il a dit que l'indicateur de réalisation de l'application du protocole sanitaire était basé sur le respect de l'utilisation de masques avec un pourcentage atteignant 96,47%, le plus élevé en Indonésie. Le respect du maintien de la distance et évitement des foules à Bali avec un pourcentage de 91,95% et également le plus élevé en Indonésie. Pour l'accomplissement de cette bonne performance, Koster a exprimé son appréciation et a remercié le peuple balinais. Il espère que la réalisation de cette performance dans la gestion de COVID-19 pourra renforcer la confiance des communautés locales, nationales et internationales afin qu'elles puissent être optimistes quant à la relance du tourisme et de l'économie de Bali. Chers amis, c'était la rubrique « Les nouvelles de la Voix de l'Indonésie » diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie » diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies, ou l'ONU, a été officiellement ouverte à New York le 9 janvier 1951. Cet endroit est le lieu le plus important et le lieu principal de l'ONU tient des réunions telles que l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les sessions du Conseil économique et social des Nations Unies, en plus d'être un lieu de rassemblement pour la conduite de sessions. Au siège de l'ONU se trouve également le bâtiment du secrétariat de l'ONU. Après la formation des Nations Unies en 1945, le siège de l'ONU était à Londres. Le 19 octobre 1949, la première pierre du siège de l'ONU a été posée à New York, aux États-Unis. Le bâtiment de 39 étages a été achevé en 1951, qui comprenait le bâtiment de l'Assemblée générale, le bâtiment de conférence et le bâtiment du secrétariat de l'ONU. Une fois le bâtiment principal du complexe terminé en 1961, la bibliothèque et le bâtiment UN Plaza ont également été construits entre 1969 jusqu'à 1976. Le 9 janvier 2005, Mahmoud Abbas est élu président de la Palestine. Mahmoud Abbas est né à Safed sous mandat britannique. Il était élu président de l'Autorité nationale palestinienne le 9 janvier 2005. Abbas est né et a grandi à Safed. Après avoir obtenu son diplôme de l'école élémentaire de la ville, il a poursuivi ses études secondaires et collégiales dans la ville de Damas. Après avoir été diplômé de la faculté de droit de l'Université de Damas, il a fondé la première institution palestinienne en Syrie en 1954. C'est aussi le début de sa carrière politique. Le 9 janvier 1988, Gombloh est décédé. Gombloh, né à Jombang le 12 juillet 1948, décédé à Surabaya le 9 janvier 1988, à l'âge de 39 ans, il est un chanteur indonésien. Gombloh est mort à Surabaya des suites d'une maladie pulmonaire dont il souffrait depuis longtemps. Il a également écrit une chanson pour un autre chanteur, intitulé entre autres Merah Putih, qu'il a chanté ensemble en 1986. Il a reçu le prix Nugraha Bhakti Musik Indonesia à l'occasion de la troisième journée de la musique indonésienne le 30 mars 2005. Avec 9 autres personnalités musicales, Gombloh a reçu le prix de l'Association des artistes chanteurs, auteurs, compositeurs et musiciens de la République d'Indonésie, ou PAPPRI. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Ku terpaku padamu saat jumpa engkau senja itu, ku hela nafasku dan membisu kala pandang kita tak cepat kagumi parasmu.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Le Conseil de coordination des investissements au BKPM exige de grands investisseurs de collaborer avec MPME. Le Conseil de coordination des investissements au BKPM exigera que les grands investisseurs s'associent aux micro, petites et moyennes entreprises ou MPME dans le cadre du programme de partenariat lancé par l'institution à la fin de 2020. Cela a été dit par le personnel spécial du BKPM pour la promotion des entrepreneurs nationaux, Pradana Indra Putra, dans une déclaration écrite à Jakarta mercredi. Pradana a cité le directeur du BKPM, Bahlil Lahadalia, qui a souvent dit que l'investissement ne concerne pas seulement les grands investisseurs, les petites doivent également être prises en compte. Les PME sont des zéros. En cas de récession économique mondiale, ceux qui suivront deviendront la force motrice de l'économie nationale. Lors de la réunion finale pour encourager les gros investissements, notamment avec le MPME organisé par BKPM et PT Surveyor Indonesia, Pradana a révélé que le but du programme de partenariat était de faire en sorte que l'investissement puisse avoir un impact significatif sur l'accélération de la reprise économique après pandémie en Indonésie. Selon Pradana, le partenariat entre les grands investisseurs et les MPME encourage des investissements de qualité et inclusifs, une répartition équitable de l'économie et des ressources au niveau national, l'autonomisation des entrepreneurs locaux et l'accélération de la croissance et du développement économique régional. Pradana a déclaré que la croissance de MPME en Indonésie continue d'augmenter, mais le nombre de micro et petites entreprises qui sont devenues des moyennes et grandes entreprises a stagné. Les MPME contribuent grandement à l'économie nationale. 120 millions des 133 millions de travailleurs indonésiens travaillent dans le secteur de MPME, à la fois formel et informel. 99% du total des unités commerciales en Indonésie, soit environ 64,2 millions d'unités commerciales, sont des MPME. Plus de 61% de produits intérieurs bruts de l'Indonésie est fourni par les MPME. La majorité de 37,77% étant des micro-entreprises. Pradana a souligné que l'État devait être présent pour les MPME en facilitant l'accès aux capitaux, aux marchés et en commercialisant, en fournissant une formation de la main-d'œuvre. Ce programme de partenariat entre grands investisseurs et MPME implique jusqu'à 55 sociétés d'investissement étrangères et d'investissement intérieur, ainsi que 198 MPME répartis dans toute l'Indonésie, avec une valeur totale de contrats atteignant plus de 1 billion de roupies. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku tak pernah begini. Jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu,
membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut ketemu kamu, sang pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku untuknya. Oh Tuhan, kirim pesanku untuknya, agar dia tahu betapa ku jatuh cinta.
Ku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Tapi ku takut ketemu kamu.
Jangan hatiku.
Oh Tuhan, kirim cintaku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans le programme Le Magazine Culturel. Cette fois, nous vous informons sur le village touristique d'Osing. Alors restez avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de la Radio République Indonésia. En tant que plus grande résidence de la province de Java Oriental, Banyuwangi est actuellement l'une des destinations touristiques les plus populaires. Il est directement adjacent au détroit de Bali. La plupart des visiteurs qui viennent ne passent qu'avant de traverser vers Bali. Si vous avez le temps, essayez de vous arrêter un instant et explorer cette petite ville appelée The Sunrise of Java. La région est assez diversifiée, des plaines aux hautes terres, des zones montagneuses et des plages, ainsi que des sites touristiques. Je veux dire ainsi que des sites historiques et d'autres sites de reliques anciennes. En mettant en œuvre le concept d'écotourisme, Banyuwangi a réussi à développer un tourisme éco-responsable en privilégiant les aspects de conservation de la nature, l'autonomisation socio-culturelle et économique des communautés locales. Le village touristique, qui est la résidence d'une tribu dans la région de Java Oriental, appelée la tribu aussi, peut être votre destination touristique à Banyuwangi. Quelles activités pouvons-nous voir et apprendre dans ce village? Explorons ensemble ce village touristique. La communauté locale est plus familière avec le nom village de Kemiren, mais ce village est mieux connu des touristes sous le nom village d'Ossing ou d'Ossing. Les habitants de ce village sont un groupe de personnes qui ont des coutumes et une culture unique en tant que tribu, connue sous le nom de tribu Ossing ou Ossing. Le gouvernement l'a désigné comme zone de patrimoine culturel et l'a développé en tant que village touristique de la tribu d'Ossing ou d'Ossing. La tribu Ossing était autrefois des serviteurs du royaume Majapahit. Cependant, lorsque le royaume a été attaqué, certains d'entre eux ont fui vers Tengger, Banyuwangi et Bali. À Banyuwangi, ils ont formé le royaume de Blambangan. Dans la région du village d'Ossing, l'attraction principale est Sanggar Genjah Agung avec ses vieilles maisons typiques. Je veux dire avec ses vieilles maisons typiques d'Ossing qui ont plus de 100 ans. Dans ce village, vous pouvez apprendre l'histoire de la tribu à partir de la forme de sa maison. La culture comprend quatre maisons traditionnelles de formes différentes qui indiquent le statut social des occupants, à savoir Krokogan, Tikel Balung, Tikel et Serangan. À Sanggar Genjah Agung, vous pouvez voir directement la culture et les coutumes de la tribu Ossing. Il y a un nangkung paglak, que les agriculteurs jouent souvent tout en protégeant leur champ. Il y a aussi des danses barong kemireng et gandrung qui sont exécutées lors de l'accueil des invités. La chose la plus intéressante est que les visiteurs peuvent écouter de la musique otek ou mortier jouée par des femmes d'âge moyen de la tribu aussi. Cette musique est exécutée en jouant en pilon et en mortier accompagnée de la musique d'angkung paglak et de tambour. Au village touristique d'Ossing, vous devrez également goûter le café Ossing au village traditionnel de Kemiren de Banyuwangi ou le café typique de peuple Ossing qui est connu pour avoir un goût si délicieux. Vous pouvez également vous entraîner à le traiter directement de la torréfaction, au broyage des grains de café, au filtrage de marques de café, à la pratique de service de café. Les grains de café sont transformés en boissons au café de tout type. À partir d'espresso et de robusta. Le goût est vraiment très délicieux. Le village est situé à seulement environ 15 minutes du centre-ville de Banyuwangi, ainsi l'emplacement de ce village touristique est assez facile d'accès. Vous aurez une variété de nouvelles expériences de ce village, donc vous n'avez pas à vous soucier de vous ennuyer dans ce village. Nous vous recommandons de suivre les protocoles de santé partout où vous allez en voyage pour ne pas créer de nouveaux clusters. Préparez un masque en désinfectant pour les mains et gardez vos distances avec les autres touristes. Passez de bonnes vacances. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Terbaikku. Berkati hadirmu dalam hidupku. Tak bisa ku bayangkan bila tanpa dirimu. Ku telah sempurna mencintaimu.
Auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur, intitulée « L'intérêt de l'Indonésie pour la lecture a augmenté pendant la pandémie ». Au milieu des efforts du gouvernement pour améliorer la culture de l'alphabétisation en Indonésie, le résultat de l'enquête de Digital Reader en 2020 qui examine l'intérêt de la lecture au milieu de la pandémie de COVID-19 offre de bonnes nouvelles. Les résultats de cette enquête indiquent que l'intérêt de l'Indonésie pour la lecture est connu pour avoir augmenté pendant la pandémie, dépassant les États-Unis. Digital Reader est un potentiel international qui documente fréquemment la révolution numérique et la montée en puissance des lectures à travers le monde. Selon les résultats de ce rapport, non seulement l'utilisation des services de visionnage de films payants a augmenté, mais l'intérêt pour la lecture a également augmenté. Cela correspond au grand intérêt de la communauté de passer du temps à acquérir de nouvelles compétences et les livres sont l'une des installations les plus utilisées pour explorer ces nouvelles compétences. Bien qu'ils montrent encore une baisse des ventes de livres physiques, l'augmentation de l'intérêt pour la lecture des gens dans le monde a atteint 35%. De tous les genres de livres, les résultats de l'enquête ont révélé que les livres de fiction du genre roman sont les livres les plus lus. Les résultats de l'enquête de Digital Reader placent l'Indi au premier rang avec une durée moyenne de lecture de ses habitants de 10h42 minutes par semaine. En deuxième position est la Thaïlande avec 9h24 minutes par semaine et ensuite la Chine avec une moyenne de 8h par semaine. L'Indonésie est classée 16e avec une durée moyenne de lecture de 6h par semaine. L'Indonésie a sous-performé l'Argentine qui passe 5h54 minutes par semaine à lire des livres ainsi que d'autres pays comme la Turquie, l'Espagne, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Sersemi Siti Lindonesi Angkuler telah buat di Lindonesi di Fusa Depi Jakarta.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici le magazine musical avec moi, Tiwi. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Kroncong intitulée Suci, chantée par Indah Susanti. La chanson dont le titre est Suci ou en français Saint est au tempo lent. Cette chanson de Kroncong a été composée par Ramlan. Elle représente quelqu'un loin, le doux visage de son amant. Il espère que son amour durera éternellement, comme un père de Colombes qui sont toujours ensemble. Cette chanson a les paroles qui ne sont pas trop longues. Bon, chers auditeurs, voici Indah Susanti avec la chanson de Kroncong intitulé Suci ou en français Saint. Bonne écoute.
Of Indonesia.
Setelah kau lakukan lagi kesalahan.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.